L'écho économique avec Benjamin Chapuis, professeur en finance à la Haute École de Gestion Arc. Bonjour.
Bonjour Armelle.
Alors, on va aujourd'hui explorer les dessous des marques commerciales en termes comptables et financiers.
Ben oui Armelle, puisque c'est notre première chronique ensemble, je vous propose d'inverser les rôles et aujourd'hui c'est moi qui vous pose les questions. Ça vous va ?
Ah ben on va essayer.
Quelle est donc la première marque commerciale au monde en termes de valeur ?
À première vue, je dirais Coca-Cola.
Gagné. Mais alors maintenant, dites-moi combien est-ce qu'elle vaut cette marque et quelle est sa valeur dans les états financiers de Coca-Cola ?
J'en ai aucune idée, je vais vous retourner la question.
Alors, la marque Coca-Cola vaut 68,7 milliards de dollars. C'est un montant énorme puisqu'il représente 70% de la valeur en bourse du groupe. Dans les comptes annuels, cette valeur est ramenée à zéro.
Du coup, on peut se poser la question, tout d'abord, comment Interbrand peut arriver à des chiffres pareils ? Est-ce que ce serait la somme des dépenses publicitaires faites pour Coca-Cola depuis des années ?
Alors, se baser sur les coûts est une façon de valoriser un actif. Ce n'est cependant pas la meilleure quand on parle de marque commerciale. Les évaluateurs d'Interbrand vont chercher à connaître les bénéfices anormaux, ce qu'on appelle les surbénéfices liés à la marque. Ils vont ensuite évaluer le risque de cette marque pour ensuite et finalement actualiser ses surbénéfices et donner une valeur à la marque.
Et pourquoi dans les états financiers, il y a zéro ?
Parce que les normes comptables, même si elles suivent un principe de l'image fidèle, ces normes comptables ne permettent pas de porter au bilan une marque générée par l'entreprise elle-même. Seules les marques achetées à des tiers sont considérées comme des actifs. Et c'est tout à fait normal, car sinon on trouverait certainement n'importe quoi sous la rubrique marque commerciale.
Donc l'image fidèle, finalement, elle n'est pas vraiment fidèle à la réalité du marché.
Vous avez tout à fait raison. Les normes comptables internationales connaissent le principe de la valeur du marché pour certains actifs, notamment pour les actifs financiers. La crise des subprimes a montré que cette façon de faire entraînait les établissements exposés dans un cercle vicieux à la baisse. Si je fais ce lien entre les subprimes et les marques, c'est parce que la fluctuation de la valeur de marché des marques peut également être très forte sur des sommes énormes.
Et ça générerait des corrections avec des valeurs astronomiques.
Tout juste Armelle. En 2009, General Electric, donc la quatrième marque au monde, devrait enregistrer une charge de 5,3 milliards de dollars si on appliquait ce principe de la valeur de marché. Si l'on prend UBS, UBS a perdu 55% de sa valeur par rapport à l'étude 2007, alors qu'en 2007, justement, elle gagnait 13%. Donc les variations sont énormes et si l'on devait résumer cette chronique, on retiendrait que les marques commerciales peuvent avoir une très forte valeur de marché. Cependant, il est très rare que cette valeur soit perceptible dans les états financiers. Et c'est tant mieux.
Eh bien, merci Benjamin Chapuis pour cette chronique marquante et à très bientôt sur nos ondes.
Au revoir Armelle.